Amen, gloire à Dieu. Voilà, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Ancien Testament, dans le livre des Juges, au chapitre 3, et à partir du verset 14. Juges, chapitre 3, verset 14, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est entre la Genèse et l'Apocalypse. Il faut trouver maintenant. On va parler d'un juge en cette matinée. Juges chapitre 3, verset 14, je vais commencer. Il est dit, « Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Eglon, roi de Moab. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Ehud, fils de Guéra, benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Eglon, roi de Moab. » Ehud se fit une épée à deux tranchants, longue d'une coudée, et la ceignit sous ses vêtements au côté droit. Il offrit le présent à Eglon, roi de Moab. Or, Eglon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il envoya les gens qu'il avait emportés. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal et dit, « Ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. » Et le roi dit, « Silence !» Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Ehud l'aborda comme il était assis seul dans sa chambre d'été et il dit « J'ai une parole de Dieu pour toi ». Eglon se leva de son siège. Alors Ehud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et lui enfonça dans le ventre. Verset 28. Et il leur dit « Suivez-moi ». Ça c'est Ehud qui parle au peuple de Dieu. « Suivez-moi car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. Ils descendèrent après lui, s'emparèrent des guets du Jourdain vis-à-vis de Moab et ne laissèrent personne passer. Ils bâtirent dans ce temps-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes, tous vaillants et pas un n'échappa. En ce jour-là, Moab fut humilié sous la main d'Israël et le pays fut en repos pendant 85 ans. » Amen. Voilà, je voudrais m'arrêter quelques instants sur cet homme. Voilà une personne dont on parle rarement, Ehud. Ehud est un juge, était le deuxième juge en Israël. Quelqu'un que l'on retrouve dans quelques versets dans les Écritures, ce n'est pas Abraham ou David ou Daniel qu'on retrouve carrément dans différents livres et sur plusieurs chapitres. Là, on le retrouve sur un seul chapitre. Ehud pourrait passer comme cela de manière insignifiante et pourtant ce personnage a quelque chose, je dirais, de particulier et en tout cas il a marqué son époque. Et nous allons vite voir que Ehud est un type de Christ. On voit vraiment derrière un symbole de Christ dans sa vie. On va d'abord regarder ensemble la personne d'Ehud, juste faire quelques présentations pour ceux qui l'ont entendu, mais n'ont pas vraiment vu qui c'était et ce qu'il faisait exactement. Ehud est la deuxième juge en Israël. La Bible dit qu'il est le fils de Guéra, de la tribu de Benjamin. Et là, la Bible souligne ceci sur Ehud, quelque chose de très intéressant, verset 15. « L'Éternel leur suscita un libérateur, Ehud, fils de Guéra. » Et quand je vous dis que c'est un type de Christ, c'est parce que Christ est notre libérateur. Et à l'époque, Ehud a été le libérateur du peuple d'Israël. Et vous allez remarquer, au travers de ce libérateur que Dieu a suscité, que cet homme a quelque chose sur lequel on pourrait peut-être s'appuyer. Il est une certaine référence dans notre vie spirituelle. Il y a un point important que je voudrais souligner juste comme ça, et puis on va y revenir dans quelques minutes, c'est que Ehud était gaucher. Il utilisait son épée du côté de la main gauche, mais on va y venir un petit peu plus tard. La parole de Dieu nous parle que c'était le fils de Guéra. Un Guéra est la plus petite unité de poids, et cela symbolise de ce qu'il y a de petit, insignifiant. On imagine que quelque part, peut-être, ils se sont sentis petits, diminués. Vous savez, quand vous vous appelez petite pierre d'unité, c'est pas valorisant tout ça. Ça donne peut-être l'impression même que de rester dans son coin, de se sentir peut-être affaibli. Et pourtant, Guéra signifie aussi grain. Grain qui est le symbole, je dirais, de la foi, de ce grain de Saint-V. Autant ils étaient marqués par ce côté insignifiant, petit, autant il y avait aussi cette marque de foi. Et c'est la raison pour laquelle l'Éternel va susciter au milieu du peuple de Dieu un juge qu'on va appeler Ehud. Parce que c'est un homme de foi. Et on va voir un petit peu plus loin combien il a été plus qu'un homme de foi. Finalement, avec tout cela, Dieu va susciter ce libérateur. Et je voudrais m'arrêter quelques instants sur ce libérateur, voir 3-4 points avec vous sur ce qu'était exactement cet homme Ehud. Ehud est l'image de la victoire par la parole de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le verset 16 de ce qu'on vient de dire de ce texte, il est dit qu'Ehud se fit une épée à deux tranchants, longue d'une coudée, et il a saigné sous ses vêtements au côté droit. Cela nous fait entendre, quand on parle d'épée à double tranchant, cela nous rappelle Hébreux chapitre 4, verset 12, et dit « Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. » Il aurait pu utiliser qu'une seule lame. Il en utilise deux. Il donne cette image de la parole de Dieu. La Bible nous compare cette épée à double tranchant à cette parole de Dieu, à cette puissance qui vient pour aiguiser, pour couper. Cela rappelle aussi Éphésiens chapitre 6, verset 17, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Non seulement il y a la parole de Dieu, mais il y a aussi l'esprit qui va derrière. Dieu ne peut pas susciter quelqu'un au milieu de son peuple sans que l'esprit de Dieu le conduise. Et déjà là, il y a quelque chose qui nous interpelle. À savoir, frères et sœurs, que notre vie chrétienne doit être dictée, conduite par l'épée de l'esprit, par la parole de Dieu, pour que Dieu nous conduise, nous dirige. On ne lit pas pour lire, mais on lit pour se nourrir, on lit pour recevoir un enseignement, on lit pour que Dieu nous interpelle, nous parle. La Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ehud est l'image de ce chrétien dont la parole de Dieu est au cœur de sa vie. Parce que cet homme, Ehud, qu'est-ce qu'il va faire avec cette épée? Il va au combat. Mais nous, chrétiens, qu'est-ce qu'on va faire avec l'épée de la parole? On va au combat. On retrouve des similitudes avec cet homme. Il y a quelque chose de concret derrière. Il y a quelque chose de tangible, de solide au travers de cet exemple. La parole de Dieu doit être là pour trancher aussi. Dans différentes décisions. Vous êtes arrivé, je parlais dimanche dernier et l'autre dimanche aussi, sur les conseils. C'est vrai qu'on va demander conseils à droite, à gauche, c'est bien, mais il y a des moments où on a plusieurs conseils et des parfois contradictoires. Qu'est-ce qu'on va faire? Qui vous allez choisir? Qui a raison? Et je crois que la parole de Dieu, elle est là pour trancher. Elle est là comme une épée à double tranchant, pour trancher sur certaines situations délicates. Où Dieu va nous parler, Dieu va nous interpeller. Comment, de quelle manière? Je ne sais pas, mais lui a le verset, le texte, qui va peut-être nous bousculer, nous interpeller, nous remuer, dire, mais oui, bien sûr, c'est ça, j'y pensais plus. Et je crois que quand on emmagasine la parole de Dieu, le Saint-Esprit, à un moment donné, alors que tu es en prière à demander à Dieu une parole, le Saint-Esprit va remonter un verset que tu auras lu il y a peut-être 15 jours de ça. C'est ça l'épée de l'Esprit. C'est ça l'épée de la parole. Elle est tranchante pour agir, pour donner une décision non pas humaine, mais une décision spirituelle. Et puis c'est un texte formidable, puisqu'il nous est rappelé aussi au travers de la parole ce verset où le psalmiste a pu dire « Je sers ta parole contre mon cœur, afin de ne point pécher contre elle ». Elle est non seulement là pour attaquer la parole de Dieu, pour contrecarrer l'adversaire, mais elle est là aussi pour nous protéger. Je sers ta parole contre mon cœur afin de ne point pécher contre elle. Dieu va nous protéger, Dieu va nous garder au travers de sa parole, va nous entretenir dans sa présence. Alors Ehud est l'image de la victoire par la parole de Dieu, par cette épée à deux tranchants. Puis quand on va plus loin dans ce texte que l'on vient de lire, il nous a dit que Ehud est l'image aussi de la puissance dans la faiblesse. Pourquoi ça? Ah ben c'est simple. Il nous a dit au verset 15 que Ehud, fils de Guéra, benjamite, qui ne se servait pas de la main droite, c'est-à-dire qu'il était gaucher. Et vous savez qu'à l'époque, ou peut-être vous ne le savez pas, c'est un détail qui a son importance, car en général, le guerrier se servait de l'épée au travers de la main droite. C'était au travers de la main droite qu'il se servait de l'épée qui combattait l'ennemi. Et nous, pendant longtemps, tous les enfants qui étaient gauchers à l'écriture, on les contrariait pour qu'ils écrivent dans la main droite. Parce qu'un enfant qui était gaucher, c'était mal perçu, considéré comme quelqu'un qui allait rater sa vie, presque. Et moi, j'ai entendu des réflexions de professeurs ou de parents, c'était juste incroyable, presque à la limite, l'enfant, il était raté, il était handicapé. De ce fait, parce qu'il écrivait de la main gauche. Alors on forçait absolument les gamins à écrire de la main droite pour qu'ils, quand même, aux yeux du monde, aux yeux des gens, ils soient quand même quelqu'un de bien. Or, Ehud, lui, s'est retrouvé avec cette main gauche. Il ne se servait pas de la droite. Alors pour quelle raison ? La Bible ne donne pas trop de détails là-dessus, mais la chose étant que c'est comme ça. Et il faut comprendre qu'Ehud, je dirais, est un benjamite. Et un benjamite, littéralement, c'est le fils de la main droite. C'est-à-dire qu'il est dans, il est benjamite, il est fils de la main droite et lui il est gaucher. Imaginez le contexte. Imaginez la situation dans laquelle il s'est trouvé alors que lui se servait de la main gauche. Combien de frustrations, combien peut-être de reproches il a eu de ses amis, de peut-être des voisins, des gens, de ses copains quand il était encore enfant. Ah, t'as un gaucher et peut-être qu'il a entendu des vertes et des pas mûres là-dessus. Quelle culpabilité! Quelle blessure de se sentir peut-être ou avoir l'impression d'être autrement, d'être quelqu'un d'autre. Écoutez, frères et sœurs, parce que bien souvent, il y a des chrétiens qui sont paralysés par rapport à ça, au fait de sentir qu'ils sont faibles, sentir qu'il y a peut-être quelque chose qui va faire qu'ils ne pourront pas être vainqueurs parce qu'il y a un problème dans leur vie. On peut s'appliquer, vous savez, on peut appliquer ce texte d'un Corinthiens, chapitre 1er, verset 7. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et j'aime bien quand la parole de Dieu vient nous citer que le Seigneur suscite les choses faibles pour confondre les fortes, pour que lui soit tout puissant. Et peut-être que tu as hésité bien des fois à aller de l'avant en disant, mais qui je suis, moi? Pourquoi j'y arriverai? Regardez Moïse. Moïse avait une langue embarrassée. Regardez Gédéon, c'était quelqu'un qui avait la famille la plus petite en Israël et lui, il était le plus petit de tous. Il avait de quoi être faible, il avait de quoi de dire, mais moi, je ne pourrais rien faire de ma vie. Et chacun pourrait aujourd'hui dire, voilà mon point faible et à cause de ça, Dieu ne peut rien faire. Mais où tu as vu ça dans la Bible? Et Ehud, de lui, aurait pu dire, mais moi, je suis gaucher, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec une épée? Tant de gens qui sont puissants, qui arrivent à se servir de l'épée avec un tranchant, arrivent à combattre un ennemi comme ça. Mais moi, avec ma main gauche, qu'est-ce que je vais faire si je suis gaucher? Et parfois, on tombe dans la culpabilité, on tombe dans l'accusation de l'adversaire. On se laisse enfoncer, on se laisse juger par l'adversaire alors que nous sommes juges. Et je crois que c'est important de réaliser que lui, Ehud, était juge en Israël. À aucun moment, il ne se laisserait accuser par l'adversaire, juger par l'adversaire. Il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Et c'est pour cela que ce texte est formidable. Ce verset est de circonstance dans cette faiblesse humaine. Eh bien, elle est devenue cette force pour Ehud. Pourquoi? Parce que quand il est rentré devant le service de sécurité avant de rentrer dans la chambre du roi, eh bien, le service de sécurité a regardé du côté droit s'il y avait le fourreau et puis la fourche. Et ils l'ont pas vu. Pourquoi? Ben, forcément, puisqu'il était gaucher. Alors, il les mettait de l'autre côté. Alors, il a regardé comme ça, il voyait rien. Alors, il est passé, il a pu traverser le service de sécurité. Parce qu'ils se sont pas aperçus que lui, il était gaucher et qu'il mettait le fourreau à l'inverse des autres guerriers. Personne n'y voyait rien. Et c'est grâce à ça qu'il a pu tuer le roi. C'est grâce à ça, c'est grâce à une faiblesse humaine que le Seigneur, et il s'est servi même de cette faiblesse pour que le Seigneur puisse être vainqueur dans cette situation. Et le Seigneur se servira de tes faiblesses pour être fort. Si tu attends d'avoir toutes les compétences pour vaincre et pour aller au combat et pour pouvoir faire face à l'ennemi, eh bien, ça sera là que tu seras vaincu. Parce que tu vas sortir de là en disant, t'as vu, avec mes compétences, ce que je suis capable de faire. Non, c'est quand tu seras faible que Dieu sera fort. C'est quand tu réaliseras, mon frère, ma sœur, qu'avec ses faiblesses, Dieu est capable de changer le mal en bien. De renverser, je dirais, les puissances des ténèbres pour que tu puisses être plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. C'est à travers de nos faiblesses. Et Ehud, il a dû se poser mille et une questions avant de dire oui. La Bible nous dit que c'est Dieu qui a suscité Ehud. C'est Dieu qui a suscité Ehud. Et vous savez, quand on regarde les disciples, de tous ces disciples, il n'y en a pas un qui soit plus grand que l'autre. Hein. Il fallait voir un petit peu certaines faiblesses chez la plupart de ses disciples. Et pourtant, Dieu a suscité des disciples pour qu'ils puissent être des proclameurs de l'Évangile après, à son époque. Et Dieu va susciter au milieu de son peuple, au milieu de son Église, des hommes, des femmes sincères, vrais, honnêtes. Il ne va pas regarder au travers de tes faiblesses. Il va regarder au travers de ta droiture. Il va regarder au travers de ta vie spirituelle. Tout à l'heure, on entendait ce texte de la Sainte Cène. On nous a dit de remettre les choses à l'endroit dans notre vie, d'être clean dans notre cœur. C'est ça que Dieu recherche, un cœur pur. Et puis tes faiblesses, tes points faibles, le Seigneur s'en occupera. Et Hude, troisième point, il image de la puissance de la foi dans le courage. Il nous a dit au verset 20 que Hude l'aborda comme il était assis seul dans sa chambre. Il est rentré dans cette chambre, il a évité le service de sécurité, il s'est retrouvé là, il a parlé avec lui, j'ai quelque chose à te dire. Tous les gouverneurs et tous les gens qui étaient autour de lui sont sortis parce qu'il avait quelque chose à dire au roi. Il faut du courage pour affronter l'ennemi. Frères et sœurs, il y aura des moments où il faudra avoir du courage pour affronter l'ennemi. Il est dit dans ce texte, Ehud l'aborda. Il y aura des moments, même dans ta faiblesse, mais avec cette épée à double tranchant, c'est-à-dire la parole de Dieu, le Seigneur te demandera d'aborder l'ennemi. Et trop souvent, parfois, nous sommes là dans la crainte, dans la peur, on attend que ça passe. On attend que la situation, je dirais, passe, mais tôt ou tard, cette situation que tu fuis, elle reviendra. Parce que l'adversaire voudra te confronter, l'adversaire voudra se mesurer à toi, voudra voir si tu es fort. Mais la question n'est pas là. La question derrière, c'est que le diable veut t'impressionner, veut te faire peur. Et la parole de Dieu nous montre dans ce texte qu'Hud l'aborda et il faudra, à certaines occasions, aborder l'ennemi, le confronter et lui montrer que l'esprit qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Lui montrer que nous sommes dans une position de force, de puissance, d'autorité. Et c'est ce que nous avons reçu en Christ. Parce que le diable, lui, il ne mord pas. Hein. Il impressionne, c'est tout. Il ne peut pas nous mordre. Nous sommes en Christ, des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il a cloué en spectacle les puissances, les dominations, les autorités. La Bible nous dit qu'il a même triomphé d'elle à la croix. Alors, si on reste dans notre coin, c'est parce qu'il a réussi à t'intimider. Il a réussi à toucher ton point faible. Et à dire, tu ne peux pas parce que tu as ce point faible dans ta vie et que je veux te détruire à cause de ça. Il y a une position d'autorité, il y a une position de force. Écoutez-moi bien, c'est comme un policier, quand il se retrouve devant un poids lourd qui arrive en face de lui et qui tend la main comme cela, oh, mais le poids lourd, il suffit d'accélérer et puis c'est terminé, le policier. Mais pourquoi il s'arrête? Il s'arrête parce qu'il y a une autorité sur lui. Et que ce chauffeur va être obligé de s'arrêter parce que là, il y a une autorité devant lui. Mais c'est pareil en tant que chrétien. Nous avons une autorité. Une autorité divine, celle-là, par contre. Une autorité de Dieu. Une autorité puissante. Et c'est la raison pour laquelle Ehud a répondu à l'appel du maître. Il a dit, ok, je vais de l'avant, je vais foncer, je vais mettre à la tête de ce peuple. Il aurait pu discuter avec lui en disant, mais tu sais, je suis gaucher, c'est pas évident. Puis il nous a dit dans ce texte qu'Ehud l'aborda comme il était assis seul dans sa chambre. Là, je vais ouvrir une petite parenthèse, parce qu'il va y avoir des moments où tu seras obligé de combattre seul à seul, avec l'adversaire. Il y aura des moments, peut-être que ça t'est arrivé déjà, d'essayer d'appeler le pasteur, tu n'as pas réussi à le joindre. D'appeler un frère et tu n'as pas réussi à le joindre. D'appeler une sœur et tu n'as pas réussi à le joindre. D'appeler les uns, les autres, les amis et tu n'as réussi à joindre personne. Et là, Dieu a permis que tu te retrouves seul, là, face au roi de Moab, face à l'adversaire. Ça me rappelle ce texte dans Matthieu, il dit, rentre dans ta chambre là, dans le lieu secret. Seul à seul avec Dieu, pour que tu ailles combattre après seul l'adversaire, parce que tu as reçu le pouvoir de Dieu dans ta vie. Seul dans ta chambre, Dieu permettra des combats seul. Et je crois que ça fait partie aussi de cette maturité que nous avons besoin d'avoir. C'est bien d'être entouré, il y aura des moments où on va être soutenus les uns les autres, priant les uns pour les autres, c'est vrai. Et on en a besoin. Et c'est ce qu'on fait les mardis soirs. On se retrouve, on intercède, on prie les uns pour les autres, on soutient, on fortifie, on encourage. Mais il y aura des moments où tu te retrouveras devant ton combat, le combat personnel sur lequel le Seigneur te voudra seul avec lui. Pour que tu puisses ressortir avec une maturité supplémentaire, avec quelque chose de plus sur ta vie. Tu n'auras plus besoin de ces béquilles autour de toi, mais seul tu feras confiance en Dieu, à ce Dieu tout-puissant. Et à un moment donné, tu vas être forcément obligé de te retrouver comme cela pour que tu puisses prendre tes responsabilités dans ta foi chrétienne. Et à ce moment-là, je voudrais juste aussi préciser une chose. Sois pas blessé, sois pas frustré, n'en veux à personne. C'est parce que c'est permis par Dieu. Et que le Seigneur, par là, au-delà de tout ça, il veut t'apprendre, il veut t'enseigner pour que tu puisses être un adulte spirituel et avancer de progrès en progrès. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu apprennes aussi à quelqu'un que tu vas encourager à lui dire « Maintenant, il faut que tu avances. » Tu ne vas pas tout le temps tenir ton enfant dans les bras pour qu'il marche. À un moment donné, il faudra lâcher la main. Il va se sentir seul, bien seul, cet enfant, à ce moment-là. Et puis, il va commencer à tomber. Et le premier instinct, c'est de le soulever. Alors peut-être au départ, on voudra le soulever, on voudra le remettre sur ses pieds, puis on va encore le prendre la main, de peur qu'il tombe. Et puis, mais à un moment donné, il faudra que tu lâches. Même à un moment donné, il faudra que tu le laisses, même quand il trébuche, parce qu'il faudra qu'il se relève seul. Parce que c'est là qu'il va grandir. Parce que c'est là qu'il va se fortifier. Et parce que c'est là qu'il va recevoir un enseignement qui va lui permettre d'aider les autres. Et c'est comme ça qu'on peut aider les autres. À un moment donné, tu vas te retrouver seul à seul face à ce roi de Moab que tu vas être obligé de combattre avec et au travers de tes faiblesses pour que tu en sortes pleinement vainqueur ou en tout cas derrière, que ce soit le Seigneur plutôt qui en sorte vainqueur. Et ça, c'est important. Quatrième point. Ehud est l'image de la puissance dans l'exemple. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est au verset 28. Il leur dit, suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. J'aime cet exemple, j'aime cette phrase, ce mot, cette réaction d'Ehud, suivez-moi. Un jour, j'ai entendu dans un reportage, un journaliste poser une question à un général de l'armée, l'armée israélienne, et ce journaliste lui dit ceci, il disait ceci à ce général, mais pourquoi l'armée israélienne est puissante et forte et rarement vaincue? Il parlait des six jours, la guerre des six jours, et il parlait de tous ces conflits où Israël vraiment a pu tenir toutes les puissances qui sont autour, et encore aujourd'hui, pourquoi? La réponse a été claire de ce général. Il a dit, nous faisons le contraire des autres généraux. Il parlait des autres puissances, de ces commandants en chef dans différents pays. Elle dit, nous les généraux israéliens, nous disons à nos gars, suivez-nous. Or que les autres disent, allez-y. Ce qui fait toute la différence. C'est-à-dire que, et à l'exemple d'Ehud, suivez-moi. Ehud est comme un général de l'armée, là. Tout en étant un juge en Israël, c'était un modèle, un exemple. Et cet homme, ce général m'a interpellé, j'ai dit, mais c'est vrai, et ils ont ça, il y a la marque de Dieu sur ces hommes, il y a ces exemples qui sont là. Et le Seigneur voudrait que nous puissions être ces exemples, des modèles d'influence. Et je crois que c'est important de pouvoir être ces modèles d'influence autour de nous, ça fait partie de la réputation. Et je vais parler à la rentrée, je voudrais parler de la réputation parce qu'il est important de pouvoir avoir une bonne réputation dans notre foi chrétienne. Et ça fait partie de cette réputation que nous devons avoir auprès de nos amis, de nos proches, de notre famille, de l'église aussi, des frères et sœurs, de ceux qui nous entourent. Être de ces modèles, déjà, d'influence à transmettre, à donner envie aux autres, mais aussi être ces modèles éthiques, de droiture, de langage, de témoignage, d'attitude. Et quand on dit « suivez-moi », c'est parce qu'on montre et parce que nous sommes des modèles. Facile de dire aux autres « vas-y, allez, faites ». Vous n'avez jamais vu au foot, quand leur club gagne, bien on a gagné, quand ils perdent, ils ont perdu. Et parfois on fait comme ça dans l'église. Oh, on a gagné, le Seigneur a béni, alléluia, nous sommes vainqueurs. Et puis quand il y a une défaite ou un moment difficile dans une église, oh, c'est une église un peu compliquée, et ils ne sont pas bien, finalement. on se disculpe. On n'assume pas, on ne prend pas nos responsabilités. On ne montre pas l'exemple. On n'est pas des modèles. Et ça, dans la société, on recherche des modèles d'influence. On recherche des gens qui soient différents des autres. Si on est comme les gens de ce monde, comment on va nous reconnaître dans ce monde de ténèbres? Puisque nous sommes des lumières. Et c'est important de réaliser cela, parce que nous sommes dans un combat spirituel, il ne faut pas l'oublier. Ehud était un guerrier. Et nous sommes en guerre spirituelle, frères et sœurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, que l'adversaire voudra se déchaîner pour essayer de nous influencer, de nous briser, de nous pousser à la faute, de nous déstabiliser, de nous impressionner. Nous avons besoin de prendre une position. Tous vous êtes des exemples pour les gens qui nous entourent. C'est juste obligatoire. C'est ça un chrétien. C'est quelqu'un qui est un modèle dans ce monde d'immoralité. Et je crois que nous avons besoin que les gens puissent trouver des modèles. On n'est pas dépassé quand un jeune de 20 ans, 19 ans, se marie. Et hier, on avait un mariage, on faisait un mariage, et le frère et la sœur, Stéphanie et Fabrice, me disaient, mais pour la plupart de tous les mariages que nous avons fait récemment avec des jeunes, les amis, ceux qui les entourent, disent, mais vous êtes plus à la page. Vous êtes démodé, vous imaginez, mais vous ne profitez pas de la vie, vous vous mariez trop jeune. Mais c'est incroyable comment vous faites, pourquoi vous mariez si jeune? Mais profitez d'abord de la vie de ce monde et tout ça. Les gens ne comprennent plus. Ils sont bousculés, ils sont interpellés, ils ne comprennent pas pourquoi on se marie si jeune. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mariage? Alors qu'on parle de Pâques, on parle de tout ce que vous voulez. On parle d'union libre, et là, des jeunes et tout jeunes qui sont là à croquer la vie à plein dents, ils se marient, ils s'en foutent, mais c'est voilà, c'est l'image dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais ça, ce sont des exemples. C'est un modèle qu'on donne. On ne doit pas avoir peur. Même dans le monde dans lequel nous vivons, même dans le milieu dans lequel nous travaillons, il y a tellement parfois d'immoralité, de choses contraires, des choses qui nous dérangent, des situations qui sont là, et on se demande comment il faut se positionner. Mon frère, ma sœur, tu as l'épée de l'esprit, tu as la parole de Dieu. Et si nous voulons vraiment que les gens voient que nous sommes différents des autres, il faut se démarquer en étant des exemples. Pour terminer, c'est au verset 30, et il y a un résultat formidable avec tout ça, tout ce que je viens de vous dire, même dans nos faiblesses où il a été capable de faire face aux situations. Il est dit au verset 30, « En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël. » C'est-à-dire que le résultat a amené la défaite de Moab et de son roi. Ça a chamboulé complètement l'existence du peuple d'Israël. Et j'aime bien cette phrase, parce que je vais souligner quelque chose de très important. Moab fut humilié sous la main d'Israël. L'ennemi est humilié, non pas par Ehud, alors que c'est lui qui est à la tête. C'est lui qui a dirigé tout ça. Il était le cerveau, un petit peu, d'Israël. C'était celui qui a pensé un petit peu la stratégie, comment il allait faire. C'est quand même lui qui est rentré tout seul dans la chambre du roi. Mais qu'est-ce qui nous est dit dans ce passage? C'est pas Ehud qui a eu les honneurs, mais Israël. Puisqu'il est dit, Moab fut humilié sous la main d'Israël. Non pas sous la main d'Ehud, sous la main d'Israël. Qu'est-ce que ça veut nous dire cela? C'est que c'est un travail collectif, frères et sœurs. Et si je prêche ce matin pour chacun d'entre vous individuellement, et pour moi le premier, c'est parce que derrière il y a il y a une église, il y a un peuple. Tout à l'heure on s'est salués fraternellement les uns les autres, parce que nous sommes le peuple de Dieu. Mais au travers de ma réputation, je donne la réputation de l'église. Au travers de mon attitude, je vais faire percevoir à ce monde une bonne attitude, une mauvaise attitude de l'Église et des chrétiens et des évangéliques. Alors, chacun d'entre nous avons une réputation à tenir, à avoir une morale à garder. Et c'est là où c'est très important. Pourquoi? Parce que quand Ehud est vainqueur, c'est Israël qui est en fait vainqueur. C'est pour ça qu'il nous a dit que Moab fut humilié, mais c'est sous la main d'Israël. C'est toute l'Église, tout le peuple de Dieu, c'est tous ces combattants qui étaient là. C'est un travail collectif, c'est une victoire collective. Un libérateur est suscité. Mais c'est un peuple qui est vainqueur. C'est un peuple qui est vainqueur. Et chacun d'entre nous devons comprendre que quand on agit, quand on réagit, quand on intervient, quand on se manifeste, c'est pas seulement pour nous-mêmes, mais c'est pour nos frères et sœurs, pour nos amis, nos proches, notre famille. Il faut qu'on comprenne qu'au travers de nous, et vous devez le remarquer ça, c'est que les gens vous observent au travail. Non ? Oh là là. Il suffit que tu aies un mot de travers, ils ne te ratent pas, mon frère. Ma sœur aussi, c'est pareil. Au travers de nos gestes, de notre comportement, de notre attitude. Il en est de même à la maison. Peut-être on a de la famille inconvertie. Il suffit qu'on ait une approche vraiment, vraiment pas chrétienne et croyez-moi que tôt ou tard, ça ressort. Alors nous avons vraiment besoin de comprendre que derrière tout cela, c'est un peuple qui est engagé. C'est une responsabilité de toute une église, de tout un peuple, du peuple chrétien, du peuple du Seigneur. Et ce qui est formidable dans Éhude, c'est qu'au travers de tout cela, eh bien, il y a cette humilité d'Éhude. Il n'est pas venu en disant « c'est moi qui suis vainqueur, c'est moi le premier, c'est moi le plus fort, avec ma faiblesse, j'ai quand même réussi à tuer le roi ». Non, non, non. Il a dû applaudir des deux mains en disant « c'est formidable les frères et sœurs, vous avez fait du bon boulot ». Éhude était comme ça. Juge en Israël, quelques versets sur lui dans la parole de Dieu, mais un homme, un exemple incroyable. Et on s'y retrouve. Dans tout ce que je viens de vous dire, on se retrouve dans cet homme. C'est un homme que Dieu a suscité. L'Éternel a reconnu en lui des valeurs exceptionnelles. Et puis Éhude a vaincu l'ennemi. Il sait ce que c'est le combat spirituel, malgré ses faiblesses. Et justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est au travers de ses faiblesses que Dieu a été vainqueur. Éhude est un libérateur pour mettre fin à la tyrannie d'un roi étranger. Et finalement, il est l'exemple à suivre, le leader par excellence. C'est un vrai chef. Il précède ses troupes au combat. Alors que le Seigneur nous donne à en faire de même. Précédons les gens. Soyons des exemples, des modèles. Ah, tu vas me dire, ouais, mais qui je suis, moi ? Eh bien, t'es un enfant de Dieu. Et je ne suis pas plus que toi, t'es pas plus que moi, nous sommes tous ensemble, je dirais, dans ce bateau formidable, dans ces projets extraordinaires que Dieu a mis dans notre cœur. Nous sommes entre les mains du Maître. Nous sommes entre les mains du roi, nous sommes entre les mains du Seigneur, du Sauveur. Et je vais vous dire une chose, je suis fier d'être chrétien. Je suis fier de marcher avec mon Dieu. Oh, c'est vrai que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Tous les jours, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Mais à chaque fois que le Seigneur est là, il fait la différence. Et c'est comme cela qu'Éhude a été vainqueur. Parce que le Seigneur a fait la différence sur sa vie et dans sa vie. Que son nom soit béni. Courbons nos fronts quelques instants.